BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Au sommaire cette semaine, la communication de crise après l'affaire Lactalis, décryptage en compagnie de Marie Musard, la fondatrice de MMC Conseil en crise. Le zoom de la semaine autour des initiatives des marques pour lutter contre le sexisme dans la pub. On sera avec Laura Boulet, directrice des affaires publiques et juridiques de l'UDELA, et avec François-Xavier Apostolo, le vice-président marketing d'Unilever. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Xavier Kergal, le directeur général du Salon des Entrepreneurs. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors avec vous, on va faire le tour encore une fois des actualités qui vous ont marqué cette semaine. D'abord un très joli coup de com' de la part de la série Baron Noir sur Canal+.
Une centaine de journalistes a reçu cette semaine une enveloppe avec une liasse de billets accompagnée d'un message du héros de la série, le député Philippe Rigvart, qui les invite à communiquer autour du lancement de la saison 2. Dans la foulée, une campagne d'affichage sauvage a été mise en place. Un compte officiel sur Twitter a été très actif pour relayer le teaser. Et attention, ça va même plus loin. Même le directeur général de Canal+ était dans le coup. Bref, c'est une belle mise en scène de la corruption en politique et c'est mis en place par BEP. Socialize et Studio Lumini.
Et puis dans un tout autre genre, Roger Federer enfile le costume de cuisinier pour la nouvelle campagne de Barilla.
Roger Federer s'engage dans un match, cette fois-ci ce n'est pas sur un court de tennis mais dans une cuisine. Le joueur est face à un grand chef italien étoilé et pour l'impressionner, il doit réaliser une recette de spaghetti à la sauce tomate. La publicité est diffusée dans 40 pays et est orchestrée par l'agence 72 & Sony Amsterdam.
Et puis Biocoop de son côté réagit à l'interdiction de la pêche électrique en Europe.
Biocoop félicite le Parlement européen dans un spot ironique de 20 secondes avec ce titre « Soirée électro en mer du Nord, la fête est finie ». Une nouvelle prise de position après avoir réagi dernièrement à l'actualité autour du glyphosate.
Oui, c'est une communication menée par l'agence Hungry and Foolish. Frédéric, c'est la mode en ce moment de réagir à des phénomènes d'actualité. On avait la semaine dernière Sixte qui avait réagi à la limitation sur les routes à 80 km/h.
Ouais, absolument. Mais sauf que là, à mon avis, Biocoop, ils avaient préparé leur coup, ils y croyaient parce que c'est vraiment très très bien fait, bien écrit, bien mis en scène.
Merci Marie Valogne, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine, Marie Buzard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de MMC Conseil en crise et auteur du livre Very Bad Buzz. Et vous êtes avec nous pour un décryptage de l'affaire Lactalis. Alors, je ne vais pas refaire le film, mais pour faire simple, c'est vrai qu'on a eu une vague de rappels de boîtes de lait infantile potentiellement contaminées à la salmonelle, avec des bugs du côté visiblement de Lactalis comme des distributeurs, sans préjuger des responsabilités de l'un ou de l'autre. Quel regard est-ce que vous avez porté sur cette affaire ?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au départ, cette affaire, elle concernait principalement Lactalis, puisque c'était une crise Lactalis, puisque c'était l'industriel qui avait effectivement fabriqué ces produits contaminés à la salmonelle. Et en quelques semaines, cette crise s'est aggravée et est devenue systémique, c'est-à-dire qu'elle a contaminé, entre guillemets, ouais, l'ensemble de la filière. Et c'est intéressant, à tel point que certains médias ne parlent plus de crise Lactalis, mais évoquent le scandale du lait contaminé.
Bon. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'ils interviennent plus tôt pour éviter cet endiguement-là, enfin, cette expansion, je veux dire, de la crise, et qu'on l'endigue, justement?
Je pense que vous avez complètement raison, c'est-à-dire que la réaction, de Lactalis n'a pas été suffisamment forte d'entrée. Probablement, ils ont sous-estimé le problème. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont donné le sentiment de gérer cette crise à l'économie, au lieu d'être guidés par le principe de précaution maximale. Et donc, ce qui s'est passé, notamment pour les procédures de rappel, au lieu de suivre les recommandations des pouvoirs publics qui demandaient un rappel large d'entrée, ils se sont contentés de rappeler les produits qui avaient été fabriqués à partir de mai et non pas à partir de février. Ce qui a obligé finalement Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à signer un arrêté pour obliger Lactalis à procéder à un rappel plus large, à titre de précaution. Donc, on voit bien que le problème de Lactalis, c'est qu'il a donné le sentiment à l'opinion qu'il n'avait pas fait tout ce qui était possible pour sécuriser, si vous voulez, ce problème. Et donc, il a donné l'impression qu'il a procédé à des rappels uniquement sous la pression des pouvoirs publics.
Et comme le disait Fred, c'est vrai que chez Lactalis, il y a une espèce de culture de la discrétion. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tenable pour une entreprise de communiquer aussi peu quand tout le monde communique partout? Est-ce que finalement, ça rend pas le silence, ça nous rend pas plus suspects?
Vous avez raison. Je crois que c'est vraiment un problème à notre époque, avec à l'ère du digital, des réseaux sociaux où tout le monde peut s'exprimer.
Oui, ils n'avaient pas de tweet, ils n'avaient pas de compte Twitter.
Alors, ils n'avaient pas de compte Twitter. Ouais. Ils ne se sont pas. Donc, on peut pas rentrer dans le débat. Or, le débat, les bad buzz se situent. Ce sont les premiers lieux d'émergence sur la toile. Bon, donc ils n'ont pas communiqué à part des communiqués qui accompagnaient les rappels, mais qui étaient très factuels. Mm-hmm. Expliquer les modalités de rappel, pas de discours empathique, pas de discours, pas de mea culpa, c'est ce qu'attendait l'opinion. Donc, ce manque de communication, les problèmes aussi, je pense, de relations tendues avec les pouvoirs publics ont compliqué la situation. La multiplicité des rappels ont compliqué la tâche des distributeurs. Les distributeurs, ils procèdent à des rappels tous les jours.
Les distributeurs qui ont peut-être beaucoup mieux communiqué. Je prends l'exemple de Michel-Édouard Leclerc, qui a réagi tout de suite sur son blog.
C'est une référence. Je veux dire, là-dessus, c'est un benchmark. C'est à l'opposé de la communication Lactalis. Michel-Édouard Leclerc a d'entrée plaidé coupable, enfin a fait un mea culpa. Il a tenu un discours très empathique en rappelant qu'il était lui-même papa, qu'il avait des enfants, qu'il était soucieux, qu'il allait faire la lumière sur cette affaire. Il a donné ce sentiment de se bouger et d'être extrêmement engagé sur ce problème, moyennant quoi, alors qu'il a été le premier à plaider coupable et qu'on aurait pu, il aurait pu avoir une vague de boycott, d'indignation, il n'a pas du tout suscité cette colère. Au contraire, je pense qu'il apparaît comme plus responsable, alors que Lactalis aura beaucoup plus de mal à retrouver cette confiance parce qu'ils ont donné le sentiment de gérer encore une fois cette crise à l'économie.
Pour autant, la prochaine, il y en aura une chez Lactalis ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça? De toute façon, quand il y a un problème, surtout, on l'a dit, sur la nourriture et encore plus sur la nourriture de nos enfants, il y a un problème, quoi qu'on fasse. Est-ce qu'en fait, il y a une recette? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette crise?
Et c'est vrai qu'on peut pas... Lactalis ne pouvait pas espérer échapper à une crise, très clairement. Mais... en communiquant, en expliquant, y compris l'opinion est capable de comprendre qu'on peut avoir une défaillance, à condition de donner l'impression que on a vraiment fait tout ce qu'il était possible pour réduire ce risque, à condition que aujourd'hui ils prennent des engagements très forts en termes de mesures, en termes de dispositions d'autocontrôle, en s'engageant à la transparence. Il faudra qu'ils communiquent désormais. Il faut qu'ils intègrent ce nouveau paradigme qui est que il ne suffit plus aujourd'hui d'être conforme à la réglementation. Par exemple, lorsqu'ils n'ont pas voulu alerter les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont découvert des salmonelles dans leur usine, ils n'étaient pas obligés par la loi. Mais c'est vrai que selon le tribunal populaire, c'est-à-dire l'opinion, ouais, si vous voulez, l'opinion aurait aimé que, par à titre de précaution, Lactalis informe les pouvoirs publics de ce risque. Et on aurait pu à ce moment-là mettre en place un plan de crise beaucoup plus tôt, beaucoup plus proactif, et on aurait peut-être évité cet effet systémique.
Domino. Voilà. Merci beaucoup Marie Musard. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de MMC Conseil en crise.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve Valérie Potin pour parler de la dernière campagne de KFC en France. Ça vous chiffonne?
Oui, un petit peu. C'est une campagne qui est assez événementielle parce que c'est la première fois quand même qu'elle met en scène le fameux colonel Sanders, qui est le fondateur de l'enseigne et qui est aussi le fameux inventeur de la recette top secrète de poulet, donc sur laquelle on ne saura jamais rien finalement. Le teaser, il y a un teaser qui a été lancé début janvier qui avait suscité chez moi en tout cas un petit peu de curiosité mais aussi un peu d'inquiétude parce que le film finalement il montrait quoi? Il montrait un personnage, on savait peu de choses de lui, on savait qu'il aimait les bijoux en or, qu'il aimait les épices et qu'il aimait les sous-marins de guerre. Bon. Et après, du coup, le film là qui a été diffusé cette semaine a malheureusement, ce qui me concerne, confirmé mes inquiétudes.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète, Valérie?
Alors un peu tout en fait, hein. Mais disons que c'est surtout le fond qui pose un vrai problème parce que quand on regarde ce film en creux, Ce qu'il nous apprend et ce qu'il nous dit est assez effrayant. Le colonel, et à travers lui la marque KFC, il apparaît comme quelqu'un d'autoritaire, d'extrêmement arrogant, de belliqueux, hein, puisqu'il ne se déplace qu'en sous-marin. Il est incapable d'écouter son entourage. Il va aussi nous expliquer qu'il a été nommé colonel parce que la place de président était occupée. Il vient nous expliquer plein de choses, que contrairement à nous, voilà, il s'est gardé un secret, que sa recette aurait pu être même une création divine si Dieu avait bien voulu patienter un petit peu de temps. Donc, humilité quand tu nous tiens, on va dire. En revanche, pas un mot sur la qualité de sa viande. Et là, pour le coup, c'est un vrai souci, parce que quand on est une marque comme KFC, qu'on a de grosses ambitions en France, et qu'on souffre quand même toujours un peu d'une image qui est à minima trouble, voire assez médiocre sur la qualité, bah, normalement, on essaie de faire un petit effort. Donc, à mon avis, la démarche n'est pas vraiment la bonne.
Mais Valérie, c'est de l'humour quand même.
Oui, alors je sais, c'est vrai que c'est de l'humour. C'est vrai que le film, de manière assez officielle et assumée, revendique le décalage, un espèce de délire un peu kitsch dans lequel on voit le colonel qui est mis en scène comme un super-héros qui intervient dans des situations toutes plus improbables les unes que les autres, ça c'est vrai. Mais le film, pour moi, il se heurte quand même à deux écueils. Le premier, c'est que justement, le ton est tellement décalé qu'il est presque trop décalé avec la communication habituelle de la marque. Donc, ouais, il y a un peu de dissonance. L'autre écueil, qui est plus contextuel, il est que la marque a décidé d'attribuer à son personnage un certain nombre de traits de caractère qui sont, donc, qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, l'arrogance, etc., dont on sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas particulièrement pertinents lorsqu'on travaille son attachement de marque. Pour preuve que finalement ces traits de caractère sont ceux d'un autre personnage qu'on connaît bien, qui est le président Donald Trump et qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est plus depuis au moins un an ce qu'on appelle une love brand. Donc voilà. Donc le truc, c'est que quand on sait, pour l'avoir lu dans CBNews d'ailleurs, que l'objectif de la marque aujourd'hui, c'est de positionner son personnage dans la pop culture en France, on se dit qu'ils se sont un petit peu compliqués la tâche.
Moi, je retiendrai que vous avez de très bonnes lectures, Valérie. Merci Valérie Poitain, à très bientôt.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, on s'intéresse au sexisme dans la pub. On en parle avec Laura Boulet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des affaires publiques et juridiques de l'UDA. Et François-Xavier Apostolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président marketing d'Unilever. L'Union des annonceurs, l'UDA, vient de lancer cette semaine le programme FAIR pour une communication plus responsable. 15 engagements à destination des annonceurs pour une pub moins sexiste. Marie Vallon y était.
Des hommes derrière un volant, des femmes qui font le ménage. Les stéréotypes ont la vie dure dans la publicité. C'est le constat dressé par le CSA en octobre dernier après avoir visionné 2000 spots. Pour mettre fin à ces clichés, l'Union des annonceurs lance un programme de 15 engagements à destination des annonceurs. Jean-Luc Chétrit, son directeur général.
Aujourd'hui, seulement un quart des Français disent avoir confiance dans les grandes marques. C'était plus de la moitié il y a encore une dizaine d'années. Donc il y a urgence à ce que les grandes marques retrouvent les conditions de la confiance.
Michelin, Danone, L'Oréal, au total 28 entreprises ont déjà signé la charte de l'UDA. Parmi les objectifs, faire une publicité plus responsable, moins intrusive, plus accessible. Valérie Candelier est directrice de la publicité France de Renault.
On est là pour montrer la diversité. La diversité, c'est une réalité. L'inclusion, c'est un choix. Très clairement, un couple demain, c'est un couple homosexuel, c'est un couple hétéro. Il faut que les marques soient en capacité de montrer vraiment sans être retomber dans les stéréotypes, de montrer la réalité de la société telle qu'elle est. Les gens se retrouvent, doivent se retrouver dans le message de la marque.
Et visiblement, la stratégie est gagnante. D'après une étude américaine, les publicités sans stéréotypes génèrent un retour sur investissement 25% plus élevé que la moyenne.
Un retour sur investissement 25% plus élevé que la moyenne pour une pub sans stéréotypes. Alors pourquoi les marques, elles n'ont pas changé leurs pratiques plus tôt, Laura Boulet ?
Elles ont changé leur pratique plus tôt, puisque le programme qu'on lance cette semaine, en réalité, prend le relais d'une charte qui existait depuis 10 ans, qui a été lancée en 2007. Mais les 28 marques qui ont signé ce nouveau programme avaient envie de franchir une étape, d'aller un peu plus loin dans la communication responsable, en s'engageant dans ces 15 engagements, avec un objectif de les mettre en œuvre d'ici 2020.
Frédéric.
28 marques, c'est bien, et en même temps, c'est pas énorme. On parle des grandes marques. J'ai entendu qu'on parlait des grandes marques. Et j'ai envie de savoir, est-ce que les grandes marques doivent être les exemplaires pour toutes les autres? Parce que la publicité, elle concerne bien plus que, d'une part, que 28 marques, et puis bien plus que les grandes marques.
Donc, c'est bien plus que 28 marques, en fait. Hein. Les signataires de la charte, c'est 28 entreprises. Et dans les entreprises, il y a les plus gros annonceurs, en fait, qui agissent en France. Moi, je représente Unilever aujourd'hui. Unilever, c'est à peu près une centaine de vagues de publicité par an sur les écrans. Donc, ce qui est intéressant dans ce mouvement, ce qu'a dit Laura est vrai, c'est qu'on n'est pas dans une démarche opportuniste de janvier 2018. Hein, c'est quelque chose qu'on amplifie. Mais l'ampleur du mouvement va impacter les choses. Sans publicité chez Unilever, plus celle des autres signataires, ça a un impact. Et on a une responsabilité dans ce qu'on montre en télé sur quelle est la société, quelles sont les tendances de société. Et si on le fait, honnêtement, c'est pour être plus efficace. Hein, c'est ce qui est dit dans le sujet. En étant plus proche de la réalité de nos consommateurs, c'est comme ça qu'on les touchera mieux et qu'on les impactera mieux.
Alors justement, à quoi s'engagent les marques concrètement qui signent votre charte, Laura Boulay ?
Alors les engagements sont assez variés. Certains engagements sont sur le contenu des messages publicitaires, d'autres sur le format de diffusion, d'autres sur l'éco-conception des supports de communication. Très concrètement, par exemple en matière de publicité digitale, les entreprises s'engagent à ne plus diffuser des formats de publicité digitale qui sont parfois jugés intrusifs par les consommateurs. Donc il s'agit de respecter le confort de navigation de l'internaute. Mais il y a également un engagement sur la récurrence des stéréotypes dans la publicité ou encore un engagement à sous-titrer ces spots publicitaires TV puisqu'aujourd'hui il y a 8% de la population qui est en déficience auditive.
Alors entre les stéréotypes, l'éco-conception, les pubs intrusives, est-ce que vous sentez, vous par exemple François-Xavier Apostolo, qu'il y a un rejet de la pub et qui fait qu'aujourd'hui quelque part le consommateur est en demande de nouvelles pratiques publicitaires?
Il y a clairement une défiance ou un scepticisme par rapport à des démarches de grandes marques, on le voit, Jean-Luc Chétry le souligne dans le sujet. C'est à nous de prendre ça à bras le corps. On a presque 50% des 25-35 ans qui sont équipés d'adblockers sur leur portable. Ouais. Donc nous, en tant qu'annonceurs, on doit prendre ça en conséquence. La meilleure façon d'y répondre, c'est d'avoir des sujets, des publicités qui les touchent. Donc pour les toucher, c'est à la fois des publicités qui auront de l'impact, mais dont le message sera entendu, sera pertinent pour eux. Le message, c'est justement d'être en phase avec les tendances de la société. C'est le choix de nos porte-paroles, c'est le choix de nos castings qui doivent être plus proches de ce qu'est la société d'aujourd'hui. Donc la lutte contre les stéréotypes, elle est vraiment concrète sur ces choix-là qu'on fait en tant qu'annonceur.
Ils sont résistants, les stéréotypes, parce que on voit qu'il y a encore très largement plus d'hommes de manière générale dans les pubs, que ce sont les experts, que ce sont
sont au volant. Oui, c'est ce que montrait l'étude du CSA.
Une étude du CSA récemment. Donc,
oui, bien sûr.
À juste titre que c'est pas la première fois que cette charte est la suite d'un mouvement déjà entamé, mais il y a de la résistance. À quoi est-ce qu'est due cette résistance?
C'est très certainement les habitudes du passé et le fait que parfois, pour un positionnement de marque qui était bien ancré sur des formes d'exécution un peu stéréotypées, c'est un peu difficile de faire ce virage. Maintenant, moi, je suis très optimiste là-dessus parce que il y a des marques dont c'est assez facile de lutter contre les stéréotypes. J'en prends une chez moi, Dove, qui a été engagée depuis plus de 15 ans sur cette démarche-là. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de montrer que d'autres marques qui étaient sous des formes d'expression peut-être un peu caricaturales, y compris chez Unilever, comme Axe ou comme Magnum, aujourd'hui changent énormément dans leur forme d'expression en restant vrai par rapport à leur positionnement, mais avec une forme d'exécution différente. Sur Axe, on célèbre tous les traits de personnalité des hommes qui peuvent être charmants, et on continue de parler de séduction, mais dans un traité beaucoup plus moderne. Sur Magnum, on a des partis pris très très engagés pour une marque qui s'exprime sur de la sensualité, du désir, etc. Ouais. On a fait des partenariats avec des ambassadeurs de marque qui étaient très engagés, Jeremy Scott de chez Moschino ou Cara Delevingne l'an dernier. Donc ça bouge.
Et justement, on voit des agences spécialisées en ce moment, des agences dites plutôt éthiques, responsables. Aludia, c'est quelque chose que vous regardez ou finalement non, les grandes agences, elles vont s'y mettre aussi?
Non, c'est précisément pour ça qu'on a choisi comme fil rouge en 2018 cet engagement sur la récurrence des stéréotypes, parce que l'idée c'est d'échanger avec tout le monde, toutes les parties prenantes, avec les associations de consommateurs, les associations militantes, mais aussi évidemment les professionnels de la publicité avec lesquels on travaille, grandes, petites agences, pour essayer ensemble de déplacer le curseur, parce que comme vous l'indiquiez, il y a la lutte contre les stéréotypes dénigrants. Finalement, on a beaucoup avancé depuis plusieurs années. Il n'y en a plus beaucoup dans la production publicitaire quand on regarde. Mais il y a cette question des stéréotypes d'habitude, c'est-à-dire la récurrence des représentations qui figent les modèles sociaux. Et c'est là-dessus où on a envie de faire un pas de plus et d'avancer ensemble avec les créatifs d'agence, avec les médias, avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir y arriver. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à préserver l'univers des marques, les catégories de consommateurs à laquelle elles s'adressent, aussi, parce qu'il faudra en tenir compte, ouais, tout en luttant contre ces stéréotypes, mais il faut aussi préserver la liberté de création publicitaire. Et là-dessus, moi, je suis pas très inquiète, puisque finalement, l'objectif, c'est de faire bouger les représentations les plus éculées et d'aller vers des nouveaux territoires de création. Donc, je pense que ça va permettre que la pub reste créative.
Merci, Laura Boulet, directrice des affaires publiques et juridiques de l'UDA, et François-Xavier Apostolo, vice-président marketing d'Unilever.
BFM Business. Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Xavier Kergal, directeur général Les Éco-Business et directeur général du Salon des Entrepreneurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Salon des Entrepreneurs, c'est 65 000 visiteurs chaque année. C'est le plus grand événement européen à destination des créateurs et des dirigeants d'entreprises. Salon qui aura lieu les 7 et 8 février prochains à Paris et qui fête cette année ses 25 ans. Comment est-ce qu'on construit la communication d'un tel événement ?
Ah ben c'est pas facile, surtout qu'il y a 25 ans, mais il faudrait parler à non pas aux jeunes, mais aux anciens. Il y a 25 ans, le mot entrepreneur, c'était le bâtiment et travaux publics, c'était le BTP.
Ah, ça a bien changé.
Ah, ça a totalement changé. Quand Macron dit entrepreneur, it's a French word, ou quand il dit les anglo-saxons ont volé le mot entrepreneur, nous, quand on a démarré, le public était persuadé qu'on faisait un salon avec des maçons, des parpaings, etc. Il y a une évolution sociologique, le mot a évolué, la communication a fait évoluer le sens du mot.
Alors, il y a
la communication a donné un sens au mot différent de ce qu'il était. C'était vraiment les entrepreneurs du bâtiment et travaux publics. Et alors, il y a eu des étapes, bien évidemment, mais la communication et les médias, et notamment quand en 2009, vous avez eu le régime de l'auto-entrepreneur,
oui,
ça a définitivement entériné dans l'inconscient collectif des Français l'entrepreneur qui est venu remplacer le mot patron, patronat, du 20e siècle, salaud de patron, hein, et on avait des ouvrages. Donc voilà, il y a eu vraiment une structure, une évolution, et une évolution sociologique aussi dans la tête des Français. Vous prenez le repas de Noël du 24 décembre. Cette année, dans un repas familial où un jeune dit « je veux créer ma boîte », tout le monde applaudit.
C'est 6 jeunes sur 10 aujourd'hui qui envisagent de créer leur boîte.
Oui,
Comment est-ce que vous vous adressez à eux ?
Un tiers des Français, 15 millions de Français rêvent de créer leur entreprise ou se mettre à leur propre compte. Parce que ça s'est démocratisé, parce que les médias ont créé des icônes. Vous n'aviez il y a 20 ans que Bill Gates, Bernard Tapie, Afflelou, le père Leclerc, etc. Et le phénomène start-up a contribué, relayé par les médias. Et c'est comme dans le cinéma, maintenant vous avez des icônes. Alors vous avez des Grandjean, vous avez des Xavier Niel, vous avez des stories extraordinaires, Uber, etc. Donc c'était cet ensemble de facteurs qui ont conféré un nouveau sens au mot entrepreneur.
Et justement, à cette occasion, vous avez mis en place un grand concours là pour frapper fort cette année. 25 ans, 25 millions, de quoi il s'agit ?
Oui, c'est assez simple. Hein. C'est un peu plus que 25 millions d'ailleurs. On a à peu près 500 dossiers de start-up, dont 150 qui vont être retenus, qui vont pitcher pendant les deux jours du salon pour présenter leur dossier. On a réuni une dizaine de fonds d'investissement qui se sont engagés, sous réserve des conditions d'éligibilité, d'avoir des dossiers de qualité, à miser jusqu'à 25 millions en capital pendant les deux jours du salon.
Quel est l'intérêt là pour vos partenaires de s'associer à ce salon ?
Il y a de toutes les façons, si vous voulez, les entrepreneurs et les créations d'entreprises, start-up ou non, parce qu'il y a peu de start-up par rapport aux 500 000 créations d'entreprises chaque année. Il y a des petits cafés, hôtels, restaurants, il y a plein d'entrepreneurs dans le food, etc. Il n'y a pas que des start-up. Ce sont les créateurs de valeur, les créateurs de richesse, les créateurs d'emplois, et ils achètent. Ils achètent des logiciels, ils achètent du service, ils achètent de l'équipement. Donc tous les annonceurs qu'on peut avoir et tous les exposants, ils sont là aussi pour les accompagner. Plus les entrepreneurs et plus les entreprises grossissent, grossissent, plus les fournisseurs, bien évidemment, peuvent leur vendre des produits et des services.
Merci beaucoup, Xavier Kergal. Je rappelle que vous êtes directeur général des Éco-Business et du Salon des Entrepreneurs. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve évidemment la semaine prochaine dans Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.